Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, bienvenue dans votre édition française du mardi 4 janvier. Aujourd'hui, Thomas Mercier et Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner. Au programme de ce jour, les dernières actualités suivies du journal des sports, le Zap France. Puis nous parlerons du spectacle de Black Brass au Théâtre Belvoir de Sydney. Mais pour commencer, votre journal. La Nouvelle-Galles du Sud s'attend à un nouveau record du nombre d'hospitalisations de Covid-19. Le Premier ministre britannique Boris Johnson admet que la propagation du variant Omicron pourrait exercer une pression considérable sur les services de santé dans les semaines à venir. En France, l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a été suspendu lors des débats à l'Assemblée nationale. Et en sport, l'Australien Daniel Sanders perd 20 minutes lors de sa dernière étape au Dakar. La Nouvelle-Galles du Sud s'attend à un nouveau record du nombre d'hospitalisations de Covid-19. En effet, elle se rapprocherait d'un chiffre atteint au plus fort de l'épidémie de Delta en septembre dernier. Lundi, 1204 personnes ont été hospitalisées infectées par le Covid-19. C'est 62 de moins que le record établi le 21 septembre, lorsque la Nouvelle-Galles du Sud faisait face au variant Delta. Le chiffre de lundi a marqué une augmentation de 165 nouveaux infectés par rapport à la veille. Malgré l'augmentation spectaculaire du nombre de cas attribués aux variants Omicron, le Premier ministre Dominic Perrottet a demandé aux habitants de la Nouvelle-Galles du Sud de plutôt se focaliser sur le taux d'hospitalisation. Le chef de service de santé, Kerry Shand, a déclaré que les autorités examineraient l'ensemble des données, y compris les chiffres des hospitalisations, les admissions en soins intensifs et le taux des cas positifs et ainsi le nombre de cas. Le Queensland se dirige vers un pic d'infection de Covid-19 lié au variant Omicron. La majeure partie de la population est susceptible d'être exposée dans les prochaines semaines. Lundi, 4249 cas de Covid-19 ont été enregistrés et un homme d'une trentaine d'années est décédé, portant à 8 le nombre de décès liés au virus dans l'État depuis le début de la pandémie en 2020. Le nombre de cas actifs a grimpé à 20 239 avec 10 personnes actuellement dans les unités de soins intensifs et une personne placée en assistance respiratoire. L'administrateur en chef de la santé, John Gérard, a déclaré que l'homme décédé subitement à son domicile de la Gold Coast avait probablement été infecté par le Covid-19. Le décès fait l'objet d'une enquête et un rapport est en cours pour le coroner. Il a refusé de donner plus d'informations sur l'homme décédé. On écoute John Gérard.
I don't have any more specific information that I think is appropriate for me to discuss at the moment, given that it's a subject of a coronial inquiry. All I would say very strongly is that it's very, very unusual for a young man to die suddenly from COVID-19. It's a very unusual circumstance. So it needs further investigation exactly what has happened here.
En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson admet que la propagation du variant Omicron pourrait exercer une pression considérable sur les services de santé dans les semaines à venir. Malgré l'augmentation des cas d'Omicron à travers le Royaume-Uni, Boris Johnson a hésité à mettre en place de nouvelles restrictions, affirmant qu'il pensait que le plan d'action actuel, qu'il a appelé le plan B, était le bon. Il a également invité la population à jouer un rôle actif dans l'application de ce programme. On écoute Boris Johnson.
I think the way forward for the country as a whole is to continue with the path that we're on. We'll keep everything under review. Of course, we keep all measures under review, but the mixture of things that we're doing at the moment is, I think, the right one. So number one, continue with plan B. Make sure that people take it seriously, do what we can to stop the spread, use the plan B measures, work from home if you can, wear a mask on public transport, be sensible about, take a test before going out to meet people you don't normally meet.
Au Liban, le chef du groupe militant libanais Hezbollah a lancé lundi une attaque verbale contre l'Arabie saoudite, affirmant que Riyad avait contribué à répandre l'idéologie islamique extrémiste dans le monde. Les déclarations d'Hassan Nasrallah sont venues en réponse aux commentaires du roi Salman, qui a appelé les Libanais, dans un discours la semaine dernière, à mettre fin au contrôle du Hezbollah terroriste sur le Liban.
Your Highness the King, the terrorist is who exported Wahhabi Islamic State ideology to the world, and they are you. The terrorist is the one that sent thousands of Saudis to carry out suicide attacks in Iraq and Syria. The terrorist is the side that launched a seven-year war against the oppressed people of Yemen and kills children, women, and destroy people and buildings, and this is you.
Les commentaires de Nasrallah interviennent alors que les autorités libanaises tentent de rétablir les relations avec l'Arabie saoudite qui ont atteint des niveaux au plus bas depuis octobre 2021, lorsque le royaume a appelé son ambassadeur de Beyrouth et interdit toute importation libanaise. La décision saoudienne fait suite aux commentaires d'un ministre du cabinet libanais qui a déclaré lors d'une interview télévisée que la guerre au Yémen était vaine et l'a qualifiée d'agression de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré lors de son discours lundi que l'ancien président américain Donald Trump devait être condamné à mort pour le meurtre du général iranien Qassem Soleimani, qui a été tué lors d'une frappe de drone américain en Irak 2020. Un hommage à Soleimani a été rendu à Téhéran lundi, au cours duquel le président Ebrahim Raisi a appelé à la mort de Donald Trump au milieu des chants de Death to America.
The then president of America, which is the main aggressor, murderer, and a criminal, must be prosecuted and killed. The sentence of God must be executed against him.
Monsieur Razi prévient que la main de la vengeance viendra. Les événements de lundi mettent en lumière les tensions au Moyen-Orient qui ont été troublées par la décision de Trump en 2018 de retirer unilatéralement les États-Unis d'un accord visant à limiter le programme nucléaire de Téhéran. Alors que les pourparlers se poursuivent à Vienne pour tenter de rétablir l'accord lié à l'utilisation du nucléaire en 2015, l'Iran continue à exercer des pressions en dehors des négociations, même si cela s'est étouffé par des sanctions et une guerre fantôme avec Israël. Le responsable de la santé israélien a affirmé lundi que le pays s'était distingué dans la gestion de certains aspects de la pandémie de coronavirus, mais avait fait bien pire dans d'autres. Nadav Davidovich, membre du comité consultatif national israélien sur le Covid, a pris pour exemple la campagne de vaccination et de tests, mais a déclaré avoir fait une erreur en fermant des écoles. On écoute Nadav Davidovich.
Israel, throughout the Covid, excelled in several things, probably the vaccination campaign, also testing. Other things probably we did much worse, such as the number of cases per capita, also closing schools throughout the year.
Pour contrer l'augmentation du nombre de cas de variant Omicron, dimanche, le pays a commencé à administrer une quatrième dose de vaccin aux personnes de plus de 60 ans, ainsi qu'au personnel médical. Environ les deux tiers de la population israélienne, soit près de 9,5 millions d'habitants, ont reçu au moins une dose de vaccin, et environ 4,2 millions d'Israéliens ont reçu les trois doses, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. En France, lors des débats de l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait lancé un projet de loi visant à remplacer le pass sanitaire par un pass vaccinal. Contre toute attente, l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a été suspendu plusieurs heures ce lundi. Les députés examinaient la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, mais les députés ont refusé de poursuivre le débat. Ces dernières heures, les échanges ont été houleux entre les parlementaires et notamment à l'encontre du ministre de la Santé. La droite a dénoncé la privation des libertés. Olivier Véran s'est défendu.
Un gouvernement déconnecté des Français, prêt à tout pour mieux les contrôler, c'est en substance l'angle d'attaque de la députée RN et candidate à la présidentielle Marine Le Pen.
Pour les Français, au quotidien, c'est l'enfer ce que vous leur faites vivre. Et ça fait deux ans que ça dure. Vous considérez que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de la vie quotidienne des Français, dont vous savez pourtant particulièrement qu'ils souffrent.
Autre charge, des Républicains cette fois. Le député Aurélien Pradier, porte-parole de Valérie Pécresse, insiste sur la perte de confiance des Français envers l'exécutif.
Il vous manque aujourd'hui le plus essentiel, c'est la confiance. Vous devez nous entendre, parce que lorsque dans quelques mois nous sortirons de cette crise-là, nous aurons, non seulement en matière de santé publique, mais en matière de démocratie, une sacrée gueule de bois.
Imperturbable face aux députés, Olivier Véran, ministre de la Santé, concède simplement des privations de liberté.
À chaque fois que nous avons mis en place des outils qui étaient fortement incitatifs, il est vrai, qui pouvaient entraîner des privations de liberté, il est vrai, à chaque fois nous avons constaté qu'il y avait de plus en plus de Français qui se faisaient vacciner et qui ont ainsi, et ils ne le savent pas, sauvé leur propre vie.
Et pour tenter d'apaiser les débats houleux, Olivier Véran termine en demandant aux députés de montrer l'exemple dans l'hémicycle.
La France a vacciné 77% de sa population et accélère les injections de rappel pour lutter contre le variant Omicron. Plus de 4 millions d'adultes ne sont toujours pas vaccinés, dont plus d'un million de personnes ont plus de 65 ans. La Nouvelle-Galles du Sud s'attend à un nouveau record du nombre d'hospitalisations de Covid-19. Le Premier ministre britannique Boris Johnson admet que la propagation du variant Omicron pourrait exercer une pression considérable sur les services de santé dans les semaines à venir. Et en France, l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a été suspendu lors des débats à l'Assemblée nationale.
Une année folle, totalement atypique, sauvée in extremis par deux films. Après un été difficile, décembre a redonné le sourire aux professionnels du cinéma. Les Tuches et Spider-Man ont permis aux salles françaises de se remplir enfin. 1 million de spectateurs par jour pour la seule semaine de Noël. Au final, près de 96 millions de spectateurs ont fréquenté les cinémas en 2021. C'est certes bien loin du record de 2019 avec ses 213 millions d'entrées enregistrées, mais c'est tout de même 47% de plus qu'en 2020, année qui s'était soldée par seulement 65 millions de tickets vendus. Parmi les meilleures entrées 2021, trois Américains, Spider-Man, le dernier James Bond et un film de science-fiction, Dune. Mais juste derrière se placent trois films tricolores, Kaamelott, Les Tuches 4 et Bac Nord, preuve que le cinéma français résiste bien à la crise.
La météo du jour en Australie à Perth, journée ensoleillée 38 degrés. À Adélaïde, le soleil sera présent avec 26 degrés. À Melbourne, temps maussade, risque de pluie, les températures atteindront un maximum de 24 degrés. À Hobart, en Tasmanie, journée nuageuse et 19 degrés. À Canberra, 29 degrés et journée couverte. À Sydney, des averses sont programmées et les températures atteindront les 29 degrés. Brisbane, alternance de nuages et d'éclaircies, ponctuées par des averses et 32 degrés sont prévus. À Cairns, ciel couvert et 36 degrés. Et enfin, Darwin, journée pluvieuse et risque d'orage et un maximum de 33 degrés. Et tout de suite, on retrouve le journal des sports avec Jean-Noël Ducasse sur SBS.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le Dakar, l'étape d'hier remportée par Sébastien Loeb. Côté moto, l'Espagnol Joan Barreda sur Honda remporte la deuxième étape. On va écouter l'Australien Daniel Sanders dans un moment. Lui qui a remporté le prologue hier pour la deuxième étape, il a pris la mauvaise route. Il est troisième au classement général. On l'écoute.
Yeah, it was really good this morning. I did really good with the navigation until kilometre, yeah, the fuel stop at 200. And then, yeah, it was really crazy. Just after the fuel station, fuel stop, we had a few tricky notes. So then, we missed a waypoint because we were one valley too far to the left. And then, spent a fair bit of time here trying to find it and lose about 20 minutes. So it was pretty crazy. But recovered and then pushed a lot to try not to lose too much time in the last June section and stuff, so hopefully I recovered a little bit of time and it was a good fun stage though, and we're looking forward to tomorrow.
The other guys join you in front of the race, so you're not leading today but you're still in the game.
I lose a little bit of time here, but it's only day two and you can see how much time people you lost yesterday and today. I open and I lose this 20 minutes, so it's just this, going to be back and forth a bit for the first few days, I think, and we'll see what tomorrow brings.
Et puis n'oubliez pas le Dakar et les meilleurs moments sur SBS Sports avec notre collègue Christophe Mallet. On passe au tennis, le tournoi de l'ATP à Sydney a noté les belles performances de l'Australien Alex de Minaur, du Français Hugo Humbert, l'Australien qui bat le finaliste de Wimbledon, l'Italien Matteo Berrettini et le Français qui a battu Medvedev, le Russe. Et puis hier soir, l'Argentin Schwartzman qui a sorti Tsitsipas, le Grec. Écoutons Alex de Minaur, l'Australien.
I mean, this is what you work hard for, to play on your home court in front of friends and family, playing for Australia, which there's no greater honor, and it just brings out the best in me.
Et puis à noter la belle performance de Priscilla Hahn, l'Australienne, qui a éliminé Petra Kvitova au premier tour à Adélaïde. On passe au foot, la Coupe de France hier avec le Paris Saint-Germain qui écrase 24-0 et un triplé de Kylian Mbappé. Il y avait plusieurs matchs de cette Coupe de France dimanche. Le bilan avec Antoine Grenier et Simon Bourtembourg pour RFI.
Rennes 4e de Ligue 1, éliminé par le dernier de Ligue 2.
Et oui, Nancy, dernier de Ligue 2 avec seulement deux petites victoires, s'est imposé face à Rennes. Résultat du match 1-1 au terme du temps réglementaire et puis pas de prolongation. C'est une règle instaurée l'année dernière, séance de tir au but immédiate donc, lors de laquelle Baptiste Valette s'est illustré. Le gardien de Nancy a arrêté 3 tirs au but. L'autre surprise du jour, c'est la victoire de Bastia. Bastia 18e de Ligue 2 qui fait tomber le Clermont Foot, 2-0. L'attaquant guinéen Mohamed Bayo, fort de 9 buts en Ligue 1, a bien manqué aux Clermontois qui étaient en manque d'inspiration. Ils n'ont cadré qu'à une reprise lors de 90 premières minutes du match. Concernant les autres clubs de première division encore engagés en Coupe de France, Montpellier a gagné 1-0 face à Strasbourg. Du côté de Strasbourg, le Ghanéen Alexander Djikou et le Sénégalais Habib Diallo étaient sur la pelouse. Ils vont maintenant être prêts à rejoindre leur équipe respective pour la CAN. Autre match de Ligue 1 concernant des clubs de Ligue 1, Marseille s'est imposé face à Chauvigny sur le score de 3-0 avec notamment un but du Maroc Amine Harit. En mauvais terme avec son sélectionneur, il ne sera cependant pas à la CAN.
Les autres clubs de Ligue 1 ont répondu présent à l'image de Nantes, Monaco ou Saint-Etienne, Simon.
Oui, Nantes a battu 2-0 l'AS Vitré. Saint-Etienne l'a emporté 4-1 contre le Jura Sud. Et on note notamment le but de Riyad Boudbouz en fin de rencontre. Le Malien Bakary Sako s'est également illustré sur pénalty. Monaco s'est imposé 3-1 face à Rouen Métropole. Et Reims a arraché le 1-0 face à l'ES Taon.
On va noter que il y aura deux clubs de National 2 encore en lice, Versailles 78 et Bergerac.
C'est bien ça.
Les petits poussets.
On passe en Angleterre avec Manchester United qui a été battu par Wolverhampton Wanderers, 1-0. United qui reste 7e de la Premier League. Et puis dimanche, Chelsea et Liverpool ont fait match nul, 2-0. Antoine Grenier, RFI.
Chelsea et Liverpool se sont neutralisés dans le cadre de la 21e journée de Premier League. De partout, score final avec des buts de Sadio Mané, Mo Salah côté Liverpool. Des Reds qui peuvent nourrir plus de regrets que leurs adversaires après avoir mené 2-0 à la demi-heure de jeu. Mais Kovacic et Pulisic ont profité d'une baisse de concentration de Liverpool pour égaliser. Un match qui était aussi l'occasion pour la Premier League de réintroduire à titre d'essai une tribune sans place assise dans un choc du championnat anglais pour la première fois depuis 94. Essai concluant puisqu'aucun incident n'est à déplorer. Dimanche, Brentford a dominé Aston Villa 2-1. Brighton est venu surprendre Everton 3-2. Et puis Leeds a dominé Burnley 3-1 malgré une réalisation de l'Ivoirien Maxwell Cornet.
En Espagne, hier, Séville, deuxième au classement, a battu Cadix 1-0 et reste deuxième derrière le Real de Madrid. Le point avec Antoine Grenier et Pierre Chaperon pour RFI.
Oui, 1-0 but de Luc de Jong à la 44e minute. Une tête sur un centre de Minguesa, pas mal pour le Néerlandais dont le Barça veut se débarrasser lors de ce mercato. Un match sous les yeux d'un certain Samuel Eto'o à une semaine de la CAN, venu inaugurer une fresque en son honneur devant le stade de Majorque, là où au début des années 2000 il a explosé en Liga. Match marqué par les cas de Covid, l'Espagne marquée comme toute l'Europe par la reprise épidémique. Plus de 100 joueurs sont touchés, une quarantaine dans le staff technique. technique. Le Barça compte une dizaine de cas dans son effectif. 10 joueurs de l'équipe B ont été appelés pour ce match contre Mallorca pour pallier les forfaits de, par exemple, Gavi, Dembélé ou encore Abdé Ezzalzouli. L'attaquant qui devait jouer la CAN avec le Maroc, au-delà du forfait à cause de la pandémie, il se dit en Espagne que le joueur a toujours voulu prioriser le Barça à une sélection, qu'elle soit du Maroc ou de l'Espagne. Il n'y aurait pas, selon la presse et les médias espagnols, de décision officielle du joueur quant à sa nationalité sportive.
Dans les autres rencontres de la journée, le Real Madrid commence mal 2022, défaite 1-0 à Getafe.
Oui, sur une erreur d'appréciation du défenseur Militao, qui perd le ballon dans la surface, le Turc Enes Unal en profite et marque sur un tir croisé à la 9e minute. C'est la première fois depuis 2012 que Getafe s'impose contre le Real. Getafe 16e au classement. Les mauvaises résolutions du nouvel antitré, un peu moqueur, hein, marque après la rencontre. Les médias ici pointent un manque d'envie, de rythme de la part du Real, toujours difficile les mois de janvier pour les merengues, une habitude notamment parce que la préparation physique est toujours très intense pour assurer la suite de la saison. Le Real qui était invaincu en Liga depuis le 3 octobre dernier. Au classement, le Real Madrid est premier, 8 points d'avance sur Séville. Les Colchoneros s'imposent 2-0 contre un Rayo qui n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur en 9 déplacements. L'Atlético remonte au classement et est 4e. Le Barça qui vient de valider sa victoire 1-0 contre Mallorca est 5e à 1 point de l'Atlético.
On passe à la CAN de 2022. Le gardien de but de la sélection de Côte d'Ivoire, Sylvain Bowe, suspendu de toute compétition après un contrôle antidopage positif à la mi-novembre. Un appel est en cours. Explication de Martin Guèze pour RFI.
En cause, un médicament au nom barbare, la triméthazidine, interdit par l'Agence mondiale antidopage, interdit par la Fédération internationale de football. La triméthazidine, qu'est-ce que c'est? Définition avec le médecin du sport Jean-Pierre de Mondenard.
C'est un produit qui n'est pas nouveau, c'est la France qui l'a mis au point en 64. Il n'a été interdit qu'en 2014, 50 ans après. Donc en 2014, il est classé comme stimulant. En 2015, il est classé dans les modulateur métabolique, c'est-à-dire qu'il intervient au niveau du myocarde, c'est-à-dire du cœur, des problèmes cardiaques, ou éventuellement des problèmes aux yeux. C'est quasiment plus utilisé en France.
Pas utilisé en France, mais prescrit vraisemblablement en Côte d'Ivoire à Sylvain Gbouo. L'éléphant s'est trompé, et si a priori la triméthazidine n'a aucun intérêt quand on pratique le football, ce produit prescrit pour les yeux peut aussi augmenter les performances cardiaques. C'est utile dans des disciplines comme la lutte. Ce qui s'apparente donc à une négligence pourrait avoir de très lourdes répercussions, nous détaille Jean-Pierre de Mondenard.
Le tarif, c'est 4 ans. Vous pouvez pas vous défendre. J'ai défendu un lutteur pour la même cause. Il n'y a aucune étude au monde qui démontre que le produit améliore les performances. Mais là, le brave joueur de la Côte d'Ivoire, compte tenu qu'il est dans la liste, eh bien, il va se retrouver exclu de la CAN et pour très longtemps, même après.
La Fédération Ivoirienne de Football expliquait ce week-end d'avoir fait appel de la suspension prononcée, mais la présence de Sylvain Gbo à la CAN au Cameroun semble très compromise. Titulaire dans les buts lors du Mondial 2014, meilleur gardien de la CAN lors du sacre des éléphants 2015 en Guinée équatoriale, l'ancien du tout-puissant Mazembe, désormais portier des Éthiopiens de Walkite City FC, devrait laisser sa place à l'un des 4 autres gardiens sélectionnés par Patrice Baumel, à savoir Badri Ali Sangaré, qui évolue en Afrique du Sud, Eliezer Iretap, Abdoul Karim Sissé et Edan Ulrich Ndrin, qui jouent tous en Côte d'Ivoire.
Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Le Zap France, les pastilles sonores de l'actualité française des derniers jours, une compilation aujourd'hui des vœux de nouvelle année, ceux d'Emmanuel Macron, le président de la République, entrecoupé de celles et ceux qui aimeraient prendre sa place à l'Élysée, les candidats à la présidentielle d'avril prochain. Vous entendrez ainsi entre les propos du chef de l'État, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Anne Hidalgo ou encore Fabien Roussel et Yannick Jadot. Le Zap France, c'est parti.
Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger.
Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger.
Mes chers compatriotes.
Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole et des outre-mer.
En ce moment, j'ai avant tout une pensée pour nos 123 000 compatriotes à qui le virus a enlevé la vie. Les semaines à venir seront difficiles, nous le savons tous. Le virus circule et circulera de plus en plus. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour y faire face et je vous demande à tous et toutes d'y veiller.
2021 se retire sur la pointe des pieds. Une année qui fut pour beaucoup une année improbable, en pointillé, et parfois une année faite de difficultés, de peines. Et pour ceux qui ont connu la maladie ou ont perdu un être cher, de souffrance. En cette période de fête, mes pensées vont aux personnes seules, dans l'adversité et vers tous ceux, dans les hôpitaux, les commissariats, les gendarmeries, les casernes de pompiers, les aéroports, et sur les théâtres d'opérations extérieures qui, dans le silence du devoir, veillent sur nous.
Pour les 5 prochaines années, allons-nous laisser faire ? Allons-nous subir ? Lorsque tous les sondages, toutes les enquêtes laissent penser que tout est joué d'avance, certains peuvent perdre espoir et se réfugier dans une forme d'exil intérieur.
Je ne me résous pas non plus à cette fuite vers les extrêmes. Et puis, je me dresse. Je me dresse face à l'immobilisme du pouvoir en place. Une autre politique existe. Avec vous, je veux construire une nouvelle ère d'espoir et de liberté qui succédera aux années Covid. Une nouvelle ère de réformes et de progrès concrets. Une nouvelle ère où chacun d'entre vous est considéré, motivé et non plus étouffé sous la bureaucratie et la verticalité d'un pouvoir solitaire.
On dira de nous, il sortait d'un quinquennat cauchemardesque, fait d'un néant présidentiel sans forme ni fond, de déclassement économique, de pandémie incontrôlée, d'insécurité envahissante, d'immigration délirante et d'islamisation galopante. 5 ans d'affaiblissement de leur identité et, à la surprise générale, ils ont vaincu la fatalité.
Nous n'avons cessé d'œuvrer pour attirer des entreprises et des investissements, ouvrir des usines, créer des emplois. Jamais, depuis 15 ans, le chômage n'avait été aussi bas. Nous avons formé notre jeunesse. Près de 700 000 apprentis ces 12 derniers mois. Là où nous aurions pu tout reporter, nous n'avons jamais renoncé à notre ambition collective. Le pouvoir d'achat, avec l'indemnité inflation, le chèque énergie, l'augmentation des salaires des fonctionnaires les plus modestes, la retraite minimale à 1 000 euros. La France, malgré les épreuves, est donc plus forte aujourd'hui qu'il y a 2 ans.
Voulons-nous d'une France fermée, défigurée, vindicative, déchirée, celle que nous promettent les 2 candidatures de l'extrême droite qui tournent le dos à nos valeurs les plus précieuses, la liberté, l'égalité, la fraternité, la tolérance, la solidarité? Il existe une alternative républicaine, sociale, écologique et de progrès. C'est le sens de ma candidature.
Le climat, la santé, le vivant, la justice et la démocratie sont les grands défis auxquels la France est confrontée. Nous en ferons les grands enjeux de cette élection présidentielle. Si vous choisissez de porter l'écologie au pouvoir en m'élisant président de la République en avril prochain, ensemble, c'est possible.
Nous avons la possibilité de reprendre en main notre destin, de pouvoir bâtir ensemble cette république sociale, laïque, solidaire, féministe. Saisissons-nous de cette belle année pour retrouver la maîtrise de notre destin. Meilleurs vœux pour 2022.
L'année 2022, je souhaite qu'elle réponde à toutes vos espérances et qu'elle puisse nous permettre de reprendre la vie ensemble, sans barrière.
Que 2022 vous apporte à chacun, comme à vos proches, bonheur et joie, santé et projet. Très heureuse année à vous.
Décidons pour nous-mêmes d'être tout à la fois enracinés dans notre langue, notre culture, notre laïcité et épris de liberté, d'universel, de créativité. Restons unis, bienveillants, solidaires. Restons du côté de la vie. Alors, 2022 sera l'année de tous les possibles. Vive notre Europe, vive la République et vive la France.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
On est ici à Thym-l'Hermitage avec David Quillin, vous représentez la cave de Thym. Bonjour.
Bonjour.
Parlez-nous un petit peu de ce terroir justement de l'Hermitage. On est tout près de vos vignes là. Les vignes sont un petit peu anciennes quand même.
Oui, absolument. C'est exactement la colline de l'Hermitage qui elle-même est située plein sud. Avec à l'est, on arrive directement sur les Alpes, le Vercors. Et à l'ouest, on est sur plutôt le Massif Central. Mais cette colline, bon, est pas plus compliquée que ça. Par contre, l'âge des vignes est très très ancien puisqu'on a retrouvé des traces de villages romains au fond de notre parcelle. Et faut pas oublier que dans la région, on alimentait Lugdunum, Lyon à l'époque. Donc on faisait partie de ce qu'on appelle les vins de Vienne.
D'accord. On parle quoi, plus de 2000 ans en fait?
Ah oui, bien plus que 2000 ans. Les premières traces qui ont été trouvées, donc je vous dis, à la parcelle qui se trouve là juste en face de nous, on sait que le Rhône arrivait à actuellement où nous sommes situés. Donc oui, on est à beaucoup plus de 2000 ans. On pense à 2400 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, peut-être une question très lambda, mais entre un Côte-du-Rhône, un Hermitage, un Crozes-l'Hermitage, un Châteauneuf-du-Pape, on parle de terroir là.
Ah oui, absolument. Tous les terroirs sont très très différents. Il faut savoir qu'ici, on est dans ce qu'on appelle les Côtes-du-Rhône septentrionaux. Qui diffèrent des côtes du Rhône méridionaux qui se trouvent après Montélimar. Pour ceux qui connaissent un petit peu la France, le sud commence vraiment à Montélimar. Moi qui suis de Bourgogne, où le tour est passé, je pensais être arrivé dans le sud. Et ici on m'a dit non, c'est pas le sud commence vraiment à Montélimar, où là le Rhône a fait son travail, a complètement ouvert la vallée. Contrairement à ici, où comme je vous redis, on est vraiment pris entre les deux montagnes. Il y a l'Isère d'un côté, le Rhône de l'autre, et il y a de Valence au Vercors, on a une heure de route pour aller skier. Nous en hiver quoi.
D'accord, c'est plutôt sympa comme endroit.
C'est plutôt sympa comme endroit. On a surtout beaucoup de vignes, beaucoup d'arbres fruitiers également. La Drôme est quand même l'arbre à fruits de la France. Et également spécifié dans la Drôme que c'est le premier département au nombre d'étoiles Michelin par habitant. On est la capitale de la gastronomie en fait, c'est nous, c'est pas Lyon.
On sent qu'il y a un petit peu de rivalité là.
du tout.
Si on parle de votre opération, donc la cave de Thym, c'est des vins qu'on peut trouver d'ailleurs en Australie, parce que vous êtes à présent, vous exportez en fait votre production à travers la planète.
Ah oui, on exporte dans plus de 100 pays à travers le monde, dont l'Australie, puisqu'on a un échange là-bas qui s'est opéré avec une winery qui s'appelle Kili Canoun, avec qui on reste très copains. Et puis d'autre part, oui, on a un importateur là-bas. On vient encore d'envoyer d'Hermitage, des Crozes-Hermitage, parce que c'est une Syrah qui est très fraîche et qui change complètement, justement, comparé à la Shiraz, qui est un petit peu plus ferme, je dirais, un petit peu plus complexe, comparé à la fraîcheur. Comme je vous ai dit, ici, c'est un climat septentrional. Donc ici, cet hiver, on a eu de les gelées, on a eu de la neige, chose qu'on n'a pas dans le sud et chose qu'il n'y a surtout pas en Australie.
Ouais, c'est clair, tout à fait. Si on doit choisir un bon vin, hormis le fait du mélisime, mais qu'est-ce qu'on doit choisir dans un, si on veut goûter un vrai Hermitage, il y a quelques labels, il faut regarder quoi?
Alors Hermitage, c'est une seule colline qui se répartit sur 136 hectares. C'est l'assemblage de différentes parcelles, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, avec en plaine des terrasses alluvionnaires galets roulées. Et plus on va monter, plus on va tomber dans des très vieux sols de granit qui correspondent très très bien à la Syrah. Chez nous, ce qu'on cherche dans la Syrah, en fait, c'est la fraîcheur. La fraîcheur est un peu de minéralité même, parce que quand la Syrah pousse sur le granit, on a ces petits aspects de mine de crayon. Après, au niveau des millésimes, je vous dirais bien que dans la région, depuis 2008, on n'a pas eu de mauvais millésime, le réchauffement climatique aidant, bien au contraire, les raisins sont de plus en plus mûrs, avec comme par exemple cette année, un millésime vraiment très très chaud et très intense.
D'accord, donc si on prend un vin d'après 2008, on est presque sûr de ne pas se tromper.
Oui, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, voilà, et c'est exactement ce que je voulais vous dire.
Voilà, merci Monsieur Quillin.
Merci à vous.
Donc c'était l'interview de David Quillin par Christophe Mallet et tout de suite on retrouve une autre interview de Maharo Wenge à l'occasion du spectacle de Black Brass au Théâtre Belvoir de Sydney.
It's a great pleasure welcoming on SBS French Maharo Wenge. Welcome.
Thank you very much for having me. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. And today we are speaking about Black Brass, the show coming to the Belvoir stage in Sydney. Tell us more about Black Brass, a voyage of discovery.
Sure. It's been quite a voyage indeed. It's been about maybe 2.5 years worth of finding this play, because it began from interviews, about 20 hours worth of interviews that I did with Africans that I've come to call Australia home, mostly in WA, from quite varying countries across the African continent. And I used that to kind of create inspire the script. And yeah, and music has always been such an integral part of this play, and getting to work with Mahmoud Seleman, who composed the amazing music that sits beside the text, just really really allowed these stories to really lift and be raised to another level. And it's been such a journey of discovery in many ways, because I find I'm discovering about myself as well in creating it, because sometimes, as you'd imagine as well, being not having grown up in Australia, there's a sense of trying to belong and trying to find a sense of
your resilience.
Yeah, of resilience and really trying to store something within yourself that helps you get through. Because you can't, there's days where I don't feel like being here. There's days where I feel I'm really struggling, and I really found these stories to be very life affirming. I found them to be very full of strength and also hope. And also, they're also very fragile as well, and I really wanted to have all of that, because it's not, I don't think it's good enough to just try and shove positivity into everything, because we have to acknowledge that we have our ups and downs, and to really try and tell as nuanced a story as possible. And I think Black Brass is really doing that.
And in the media release, I read that you drew inspiration from interviews conducted in Perth with the Zimbabwean, Sudanese, South African, Central Congo, Mauritius, Nigerian, Congolese, and Kenyan communities. I'm from the Mauritian community.
What a small world. What a small world. In fact, the gentleman that I interviewed from Mauritius is a musician here. And I tried, and I've tried my best to keep everybody's, to be anonymous with all of my interviewees, because I feel in them sharing their stories with me, I was very clear with them that I'm not going to name anyone in the story, and it's not going to be one person's narrative in the middle of it, but they've all played a part in inspiring it. And yeah, it was amazing how many similarities I saw in my own life, in all of these other stories. It's been very rewarding in creating it as well, and challenging as well, because when you're handling people are sharing with you their most intimate life experiences, and it's been I've been so honored and very blessed to be able to look after their stories and try my best to use them, maybe use isn't the right word, but to acknowledge their worthiness and really apply them into a theatrical form.
And Mararo, I believe you were born in Kenya, is that right?
Yes, I'm still Kenya. I came here when I was 18 to do my degree, and I've been here ever since, which was not the plan at all.
And you're on stage with the composer, musician, Mahamudu Seleman, and he's from French-speaking Africa?
Not at all, he's from Mozambique. Things in such a multiplicity of languages, so it's hard to pin him down. He sings in Lingala, in Kosa, in Swahili, in Shangana, in Portuguese, in French. Mm-hmm. He's incredible.
And tell me, the show was on at the Perth International Festival this year. How did it go for you?
Oh, my Lord. I think I'm still... I only just came down from the clouds, I think, a few months ago. But it's been... It's just been such an incredible journey, because even, honestly, I don't even know where to begin, because Zainab Syed, who was our original producer, it's such a beautiful thing when you're a writer or a creative and you have a producer that is so ambitious, that doesn't allow you to take a road that's predictable or a road that's very comfortable. She was like, Mararo, challenge yourself to create a work that can be on the highest platform, and that's Perth International Festival doesn't get higher than that in WA. She was like, try and create a work that we can pitch to that. And I think that in many ways really, really elevated what we ended up creating together. And yeah, it just, it's ambitious. It's saying that these stories deserve to be on a bigger stage as that, and that they deserve to be shared as widely and wildly as possible.
And Black Brass, as I mentioned at the beginning, is coming to the Belvoir Theatre. Do you know the Belvoir Indeed. Very well?
Yes, I've never performed there, but I saw an amazing show there called The Wolves about a year and a half ago. And I love the space. It's an amazing venue. It has a really intimate, I love theatre where I'm able to really feel the audience in the room. If they're too far away as a performer, it's a lot of work to really try and get that connection. And Belvoir, I have this feeling, having only witnessed it from an audience perspective, that it'll fit perfectly with Black Brass, because it's a show that really requires a connection with the audience, that requires an acknowledgement of the audience, that requires a space that's not creating too big a divide between the story that we're telling and the people who have come to bless us with their presence.
And Morara, what would you tell the listeners out there who would like to come and see your performance between the 6th and the 23rd of January at the Belvoir?
Well, what to say? I would say come with an open mind and come with an open heart, because these are issues that affect all of us. It's issues of migration. It's issues of trying to belong. It's issues of finding oneself, you know, and it's as you'd understand as well, being a fellow African as well, that we've been taught in many ways, we have a really colonial mentality in some ways, that we believe that all of our answers that there's a paradise in the West, you know, that you come here and everything is perfect. And there's we're always striving to get out of the continent, and there's a severing, you know, that happens when we do that. And what happens when you leave your continent and you're trying in a new country that has its own issues and its own things to deal with.
And Morara, tell us about some of your future projects.
To be honest, of course, being an independent artist, I really just go gig by gig. So we closed Shakespeare's Tempest. That's been an amazing season that we did with the same director that's directed Black Brass, Matt Edgerton, who is amazing at what he does. Mm-hmm. And almost the same technical team as well. Same set designer, same lighting designer, same sound designer as well. It's been incredible. And I'm hoping to focus more on writing in 2022, and focus a lot more on getting into the film industry as well. Because I don't believe in limiting myself as an artist to only wearing one hat or as a writer for stage. I really try and spread my wings as far as I can.
Morara Wangai, thank you so much for coming on to SBS French, and best of luck for coming to the Belvoir between the 6th and the 23rd of January.
Thank you so much. I'm so looking forward to it. I hope you get a chance to join us.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
La Nouvelle-Galles du Sud s'attend à un nouveau record du nombre d'hospitalisations de Covid-19. Le Premier ministre Boris Johnson admet que la propagation du variant Omicron en Grande-Bretagne pourrait exercer une pression considérable sur les services de santé dans les semaines à venir. Et enfin, en France, l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a été suspendu lors des débats à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, c'était Thomas Mercier. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet sbs.com.au/french, et je vous invite à télécharger, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'application SBS Radio pour écouter tout le contenu en français. Passez un très bon après-midi et on se retrouve jeudi sur SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.